de vous faire cet exposé en deux étapes. Je ne sais pas trop si on va y arriver, puisqu'on parle du retard. Dans un premier cas, je vais vous montrer des ensembles d'images qui chacun illustrent un problème général. Et ensuite, je voudrais vous montrer quelques images particulières pour vous montrer comment une image peut parler de la société de son temps. Alors, expliquons-nous. Bon, le sujet art et société est évidemment recouvre une quantité de problèmes extrêmement vagues. Donc, je vais le prendre de la façon la plus générale. L'art, bien sûr, est en rapport avec la société de son temps puisqu'il en est le produit. Et donc, d'une certaine façon, toute expression d'art, toute œuvre d'art reflète, hein, ce mot est bien vague, mais on va le garder pour l'instant, reflète la société dans laquelle il a été produit. Il est un témoin de son époque et des problèmes qui intéressent ou qui préoccupent les gens à son époque. Alors, les arts témoignent tous, disais-je, de cet état de la société, mais de façon différente. Bien sûr qu'il y a des arts qui sont plus explicites que les autres, par exemple la littérature. La littérature a cet avantage d'utiliser le langage de tout le monde, et donc en lisant, on découvre un univers qui en plus est un univers complexe et prolixe, l'auteur nous prend par la main et nous fait faire un long voyage à travers son roman, par exemple, et ce faisant, bien sûr, il nous présente une certaine image de la société, hein, d'une société qu'il a en partie inventée, mais qu'il n'a inventée qu'à partir de son expérience personnelle du monde dans lequel il vit, et c'est en cela que le roman est le témoin de la société. Alors, ce témoignage, il en est de même. Alors, par contre, pour des arts comme, disons, la musique ou l'architecture, la relation n'est pas directe. Hein, ce n'est pas en regardant simplement l'architecture du lycée que vous allez découvrir à quelle conception de la vie en commun il renvoie. Et il est évident que l'organisation du lycée est un témoignage de la façon dont, au XXe siècle, en France, on conçoit les rapports humains. Mais ce genre de commentaire est plus difficile à faire. Il est plus difficile d'extirper, hein, du spectacle et de l'organisation d'un bâtiment les notions générales que, inévitablement, il illustre, hein, qu'il met en scène, qu'il met en espace. De même pour la musique. Quand il s'agit... Ça, c'est un... J'appuie en même temps que je parle sur pas sur le bon. Il faut que je revienne à zéro. Voilà, j'y suis. Hein, voilà. Ok. Bon, de même pour la musique, s'il s'agit du rap, le rap a des paroles et c'est une musique qui commente la société, je dirais, immédiatement, dans un rapport presque instantané. Mais si vous écoutez une symphonie d'un compositeur contemporain, il est fort probable que la dimension abstraite de la musique empêche de saisir immédiatement quelle relation esthétique et affective ou bien même morale ou politique, hein, le compositeur noue avec son époque. Alors la peinture, moi j'ai choisi de vous parler de peinture. J'ai choisi un art, la peinture, puisque c'est celui dont je suis sur lequel je travaille, et la peinture elle est plus explicite, bien sûr, que la musique ou l'architecture, surtout si elle est figurative, hein. Pendant des siècles, la peinture a eu pour fonction d'illustrer, de représenter, et de représenter le roi dans ses activités, les fêtes qui marquaient la grandeur de son règne, les batailles qu'il avait remportées, etc. Donc elle représentait un certain état partiel, très partiel, hein, de la société de son temps, mais il y avait d'autres peintres qui pouvaient peindre aussi bien la vie des paysans, les moments heureux dans les auberges de campagne, etc. Ce sont des types de tableaux qui ont été pratiqués de la Renaissance au XIXe siècle sans problème. Quand la peinture n'est pas figurative, c'est un autre problème. C'est un problème récent, puisque la peinture abstraite n'apparaît qu'au début du XXe siècle. Et à ce moment-là, évidemment, elle ne montre rien et elle n'est pas immédiatement accessible ou elle ne se prête pas instantanément à l'interprétation et aux commentaires. C'est qu'à ce moment, la peinture témoigne d'une certaine évolution de la société. On est arrivé à un moment où la définition de l'œuvre d'art a changé Et on accepte qu'une œuvre d'art soit une œuvre autonome, autosuffisante. C'est la qualité de ses rapports intérieurs, l'harmonie des couleurs, les rapports de forme, les rythmes qui sont constitués sur la surface d'un tableau par le peintre, qui font que ce tableau abstrait, enfin non représentatif, on va dire, est considéré comme intéressant. Donc, à ce moment, la peinture témoigne indirectement, elle témoigne de la façon dont, à une certaine époque, on conçoit l'art, on conçoit le plaisir, on conçoit le délassement, on conçoit tout ce qui est de l'ordre de l'activité intellectuelle et esthétique. Et ce faisant, elle témoigne aussi d'un certain aspect de la société. Alors, je ne vais pas vous montrer d'œuvres. Je vais abréger ce début. Je ne vais pas vous montrer d'œuvres abstraites, bien sûr, mais je vais vous montrer trois types de peintures illustrant trois moments de l'histoire de la société française. Le premier ensemble, c'est, vous avez ici sous les yeux, le Moulin de la Galette de Renoir, qui est un tableau de cet ensemble de peintres qu'on appelle les impressionnistes. Et donc c'est un tableau qui représente une partie de la société du XIXe siècle en train de se délasser, en train d'aller dans un bal qui se passait à Montmartre, qui avait un grand succès, et où se rencontraient de façon assez exceptionnelle les gens de la société riche et oisive, qui allaient là se distraire, et les gens de conditions plus modestes qui allaient également se distraire. Il y avait une sorte de rencontre exceptionnelle. Pour les uns, c'était un spectacle pittoresque, et pour les autres, c'était simplement la distraction la plus en relation avec leurs activités. Ils allaient dans un bistrot qui coûtait pas très cher, il y avait de la musique qu'ils aimaient, et ils dansaient, ils guinchaient avec plaisir. Et les autres venaient les imiter, ou les regarder. Ils étaient au spectacle, les uns étaient vraiment dans leur vie quotidienne, les autres étaient au spectacle, allant voir comment on pouvait se distraire dans un autre milieu que le leur. Mais de toute façon, cette conjonction est caractéristique des loisirs d'une société. Et je vais en revenir à ceci. Alors, cette sorte de représentation de la société pas dans son ensemble, mais dans une certaine partie, une certaine catégorie sociale, vous la trouvez aussi bien en littérature que dans les arts. Ce qui est contemporain du monde des impressionnistes, ce sont les œuvres romanesques de Balzac ou de Zola, deux écrivains qui, eux, se sont donnés pour tâche de faire le portrait entier de la société de leur époque. Ce qui est une très grande ambition, bien sûr. La littérature ne se donne pas toujours cette ambition de faire le portrait entier, mais elle peut traiter d'une question qui obsède ou intéresse ou préoccupe à un moment une société. Dans le journal d'hier, que j'ai acheté en prenant le train, il s'agit du Figaro, il y a un supplément littéraire, il y a deux pages consacrées à une dizaine de romanciers américains qui tous ont écrit des romans sur l'affaire du 11 septembre, sur cet attentat qui a détruit deux immeubles qui étaient des symboles de la prospérité et de la supériorité économique des États-Unis et qui a profondément traumatisé la société américaine. Alors, donc voilà un fait de société, un fait historique, et la littérature s'en fait avec du retard, bien sûr, quelques années pour laisser en quelque sorte décanter l'émotion, s'en fait le témoin, et pas seulement le témoin, s'en fait le témoin explicatif. La diversité des romans est très grande. Certains montrent ce qui se passe dans un couple, chez un couple, new-yorkais, qui est en crise sentimentale, etc., et tout d'un coup qui se trouve devant une crise, un phénomène tragique, qui rend dérisoire leur propre problème quotidien. Donc on a là le rapport entre la grande histoire et l'histoire privée dans sa dimension psychologique et émotive. Et un autre romancier, je ne prends que deux exemples, va lui imaginer un jeune Américain, un peu en détresse, en déroute, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, il est drogué, etc., et qui va rencontrer un personnage qui est riche d'une foi intérieure. Il va le convertir, et celui qui est riche d'une foi intérieure et de certitude absolue va convertir celui qui est flottant, un peu en détresse, et va le transformer en terroriste. Donc, un roman d'un écrivain américain, qui pourtant c'est pas du tout la spécialité, le sensationnel, c'est John Updike, c'est un grand romancier qui a déjà écrit une quarantaine de romans. Il essaie d'entrer dans la psychologie de ces personnages, en général considérés comme des gens qui vivent de façon absolument absurde et illogique. Il va essayer de démonter le processus psychologique de transformation d'un être pour en arriver à des actions aussi radicales et aussi destructrices que cela. Donc, la diversité de ces romans, une dizaine parus simultanément, montre bien que la littérature est le reflet de la société et que c'est un peu comme quand vous jetez une pierre dans un étang, il se crée des rides, n'est-ce pas, l'eau. À un certain moment, cette eau va arriver au bord de l'étang. Et là, il va y avoir un remous. Ce remous, c'est l'œuvre d'art qui cristallise. Je suis allé. J'ai des enfants qui vivent aux États-Unis, donc j'y vais assez souvent. Il y a énormément de sculptures aux États-Unis qui commémorent dans les parcs publics cet événement tragique du 11 novembre. Donc, cet événement est devenu aussi l'occasion d'une création plastique. En arrivant au lycée, j'ai été frappé par la sculpture qui orne l'accès au lycée, qui est le 1%, n'est-ce pas? Le 1%, c'est une volonté un peu autoritaire d'introduire l'art dans un milieu qui, en général, n'est pas fait pour ça, n'est-ce pas? L'œuvre est toujours un peu perdue, un peu isolée dans un lycée. Quand elle est comme ça, elle sert de signal. On ne la regarde pas pour elle-même. On dit, tiens, on arrive au lycée. C'est devenu une marque de la vie quotidienne. Mais c'est pas plus mal. Eh bien, dans les parcs américains, il y a une marque de la vie sociale. En 1900, je ne sais plus combien, en 2000, je ne sais plus combien, s'est produit un événement qui a induit une transformation majeure de la sensibilité de la société américaine. Et du coup, ça s'est cristallisé dans des sculptures, en général abstraites, il ne s'agit pas de figurer l'événement, il s'agit d'en garder une trace visible, visuelle, et qui est en même temps, évidemment, une trace émotive. Bon, alors, venons mon premier groupe de peinture, c'est la peinture des impressionnistes, et c'est une peinture, c'est une relation de l'art et de la société qu'on pourrait qualifier de miroir, en se rappelant cette définition que donnait du roman un romancier Stendhal, qui comme Zola et comme Balzac voulait être le témoin de la société de son temps par ses écrits littéraires. Il disait, un roman c'est un miroir que l'on promène le long des chemins, c'est-à-dire à travers la société. Et tout ce qui se passe dans la société se reflète d'une façon ou d'une autre, selon le désir d'inventer une histoire crédible et organisée du romancier, dans l'intrigue du roman. Et ici, on est également dans cette relation miroir, puisque nous allons voir ici une certaine activité d'une certaine société. Il ne s'agit pas de représenter la société entière, c'est une société oisive, de gens fort riches, et dont la préoccupation principale, enfin, telle que la peinture nous le donne à imaginer, est d'occuper heureusement le temps libre dont elle dispose, et qui est un des privilèges de sa situation sociale, c'est-à-dire sa situation économique. Donc, ces gens vont d'abord fréquenter des lieux qui sont des lieux de plaisir patentés, donc le bal, nous avons vu, et voici également au même lieu, Moulin Rouge, représenté par Toulouse-Lautrec, une danseuse qui arrive sur scène accompagnée d'un... on voit très mal, je suis désolé, donc je vais passer à la suivante. Voilà, c'est mieux. Et aussi une danseuse chanteuse qui était très à la mode, qui s'appelle Jeanne Avril, et dont Toulouse-Lautrec, qui était lié d'amitié avec elle, a également fait des affiches. Ceci est une affiche. Et voici un tableau qui la montre dans ses activités. La danse à la mode à cette époque, la danse nouvelle, la danse qui fait courir les spectateurs, c'est le French Cancan, qui est depuis devenu une appellation traditionnelle. Et voici une autre danseuse qui est une japonaise, qui avait un numéro d'acrobatie dansée, qui n'était pas fort belle, n'est-ce pas? Et Toulouse-Lautrec la montre se préparant à entrer en scène dans sa loge. C'est ce que faisaient ces visiteurs, n'est-ce pas, riches, qui allaient voir comment se passait, n'est-ce pas, l'activité théâtrale. Et ils avaient droit d'accès, droit de regard dans les coulisses, aussi bien que dans la salle de spectacle. Donc, le peintre nous met en quelque sorte en situation de visiteur, hein, comme les gens dont il est le représentant social, puisque les peintres impressionnistes en question sont des peintres qui fréquentent cette belle société et qui peignent pour... c'est cette société qui leur achète leurs œuvres, n'est-ce pas, qui peignent pour les satisfaire. Aristide Bruant était un chanteur très à la mode, l'équivalent de Renaud, si vous voulez, de l'époque. Hein. De Renaud. Voici un autre peintre, Degas. Lui, il s'est intéressé à un art moins pittoresque, moins populaire, au ballet de l'opéra. Il était fasciné par la vie des danseuses, par l'art des danseuses. Il a essayé d'en rendre compte de façon diverse et multiple, montrant aussi bien l'entraînement, la discipline difficile de la préparation du spectacle par les danseuses, parce que vous savez qu'il faut qu'elles travaillent leur corps, c'est de façon extrêmement douloureuse pour acquérir les capacités techniques de la danse classique. Et également, il va montrer dans sa gloire une danseuse étoile qui apparaît, vous voyez, elle accède en quelque sorte à la solitude, hein, de la notoriété. Elle sort du groupe et elle occupe pleinement la scène. Elle sort en quelque sorte de l'arrière-plan. La peinture est organisée de façon très symbolique, n'est-ce pas, l'arrière-plan. Et c'est l'anonymat, n'est-ce pas, dont elle sort. Elle sort de la troupe qu'on a vu tout à l'heure se préparer. Et elle a acquis la notoriété, la gloire et le droit maintenant d'être admirée pour elle-même. Le même Degas va essayer de rendre compte de l'atmosphère d'une salle de théâtre. Ici, on joue un opéra, Robert le Diable, et il a, vous voyez, composé un tableau où il montre à la fois en haut le ballet, c'est une sorte de rêve nocturne, n'est-ce pas, donc c'est un peu flou volontairement pour traduire l'atmosphère du ballet, et en bas, au premier plan, les musiciens, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on oublie, hein, les ouvriers du spectacle, ceux par qui le spectacle acquiert sa plénitude. Et Manet, qui est un autre peintre impressionniste, lui s'est tourné vers les oubliés, c'est-à-dire ceux qui sont autour des heureux spectateurs pour qui tout le spectacle est organisé, qui sont à leur service et qui sont invisibles, qui sont anonymes. Ça, c'est la serveuse du bar. Et en général, on ne voit pas les serveurs du bar. Même aujourd'hui, n'est-ce pas, quand vous avez le 14 juillet, tout le monde se bouscule pour se faire remplir son verre et personne ne regarde qui remplit le verre, sauf si on le connaît par ailleurs, ce qui est possible. Hein. Et ici, il a montré en quelque sorte la solitude de ce personnage qui n'est qu'un instrument et qui a l'air un peu hébété, vous voyez, cette espèce de... Elle est réduite, hein, à une sorte de présence. Elle n'est plus une personne à son propre compte, et elle n'existe que par tous ces objets qui l'entourent. Hein, elle est l'instrument qui va permettre de faire que les bouteilles de champagne se vident allègrement. Alors, deuxième activité de loisir qui devient à la mode à ce moment-là, c'est le canotage. Hein, Paris est une ville qui grossit, et qui devient une ville industrielle. Et donc, il y a le désir de sortir un peu de... j'aurais dû dire ça préalablement. Je veux dire qu'on est à une époque où la ville devient un sujet d'intérêt. Pendant très longtemps, la littérature, la peinture, s'est intéressée à la nature, ou ce qui se passe dans des lieux ritualisés comme la cour, les réceptions officielles, etc. Et tout d'un coup, ici, à la fin du siècle, aussi bien dans les romans que dans la littérature, on essaie de rendre compte de cette naissance d'un lieu particulier, la ville, qui dans son accroissement devient un lieu où l'on peut passer sa vie entière. C'est une deuxième nature, c'est une nature artificielle. On peut aller, ou bien toute sa vie être... À cette époque, on travaille 10 heures par jour, n'est-ce pas, si on est ouvrier. Donc on peut y travailler et y dormir et ne jamais en sortir et passer sa vie comme ça dans l'oubli de soi, dans la fatigue et l'épuisement, ou bien on peut au contraire y passer sa vie en allant de fête en fête, de réception en réception, de visite en visite, etc. Et on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Si, on a besoin, puisque justement, sous l'angle du pittoresque, du divertissement original, du changement, de la rupture, qui est un plaisir en soi, on va aller découvrir d'une autre façon les plaisirs de la nature en allant faire du canotage sur les rivières qui sont les affluents de la Seine, sur la Marne en particulier, dans les environs. Et ici, Renoir nous montre des bourgeois, bien sûr, qui se déguisent en canotiers, c'est le début de la mode du tricot marin, hein, qui se déguisent en canotiers et qui vont faire du canot sur la Marne, faire du canot sur la Marne, faire de bons repas. Le canotage est souvent l'occasion, évidemment, surtout de se mettre à table. Et comme vous le voyez ici à nouveau, ces tableaux s'appellent le repas des canotiers. Donc, les hommes ont fait un peu de canot, les dames les ont admirés de la rive. Et ensuite, tout le monde se retrouve pour célébrer cette journée de plein air. Après tout, nous n'avons pas changé, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui, bien sûr, surtout quand vous êtes en Brun, vous voyez arriver le vendredi soir tous les gens de la grande ville qui viennent se rafraîchir les poumons sur la neige voisine, et c'était à peu près, c'est le début de cette alternance, n'est-ce pas, entre vie urbaine, qui est la vie du travail, et loisir sur les marges, qui est ressourcement. Et c'est le moment où commence la mode d'aller à la plage, de prendre des bains de mer. Voici Degas, témoignant de cette mode. C'est évidemment, vous voyez qu'on est très loin d'être en maillot de bain, de se dénuder, bien au contraire. Même quand on se baigne, n'est-ce pas, c'est avec un costume qui va, pour les dames, qui va jusqu'aux pieds, et pour les hommes, quasiment pareil. Et même souvent, on se baigne dans une petite guérite sur roue que l'on emmène dans l'eau. On ne sort pas, n'est-ce pas, on ne montre pas son corps. Mais néanmoins, n'est-ce pas, on va s'étendre sur la plage. Et là commence quelque chose. Nous sommes en Normandie, c'est pour ça qu'il y a aussi une autre raison qui fait que les gens ne se dénudent pas trop, c'est qu'évidemment on n'a pas les températures voulues. Mais à cette époque, la Côte d'Azur n'existe pas comme lieu de plaisir estival. On vient sur la Côte d'Azur en hiver pour y trouver la chaleur qui est absente ailleurs. Donc cette activité nouvelle, celle de la fréquentation du bord de mer, se traduit chez Monet par la représentation des lieux. Ici, c'est la terrasse d'un hôtel à la mode. On construit des grands hôtels. On construit ce qu'on appelle maintenant les stations balnéaires. Et ici, vous avez une station balnéaire, je ne sais plus laquelle, avec un grand hôtel qui, déjà, vous voyez les drapeaux, est un hôtel pour clientèle internationale. Bon, dernière activité que je vais vous montrer, c'est celle des courses de chevaux. Hein, les courses de chevaux qui se passent aussi aux marges de la ville. Alors la pratique du cheval a toujours été une pratique aristocratique, mais maintenant elle est organisée en spectacle, et on va organiser cette activité qui encore aujourd'hui de nos jours a tant de succès, les paris sur les courses de chevaux. Et donc Degas va être témoin de cette curiosité, de cet intérêt pour le spectacle des courses de chevaux. Et vous voyez, la mise en scène est très révélatrice du fait qu'on va au spectacle, puisqu'au premier plan vous avez une voiture, une Victoria, je crois que ça s'appelle, dans laquelle les élégantes, avec leur plus belle robe et leur chapeau commandés spécialement pour ce jour-là, sous leurs ombrelles, viennent assister aux courses de chevaux. En quelque sorte, c'est leur gradin personnel, n'est-ce pas? Il n'y a pas encore, à cette époque, de champ de course avec gradin, etc. Donc, on vient assister à l'entraînement des gens qui vont courir. Et les gens qui courent ne sont pas à cette époque forcément des professionnels, n'est-ce pas? Il n'y a pas de jockey, ce sont des jeunes gens, des bonnes familles qui savent faire du cheval et qui s'adonnent à la course. C'est un exercice un peu comme aujourd'hui tout le monde peut faire du ski. À cette époque, à peu près tout le monde, à condition d'avoir les ressources financières voulues, peut se lancer dans des courses de chevaux. Et donc voilà ce spectacle tout à fait pittoresque, lumineux, divertissant qui nous est présenté. Donc ici, vous voyez dans cet ensemble de l'impressionnisme, je vous ai montré comment l'art peut être le miroir de l'activité sociale d'une certaine partie de la société. Mais évidemment, j'aurais pu choisir à une autre époque un ensemble de peintures nous montrant comment dans les villes, je pense à la peinture hollandaise, comment le commerce se développe dans les villes hollandaises, puisque ça a été un grand sujet de curiosité picturale que de représenter les marchands, les bouchers, les poissonniers, les cabaretiers, etc., dans leurs activités. Parce que toute une société, nous sommes au XVIIe siècle, toute une société s'enrichissait dans le commerce international, c'est une société bourgeoise, sans culture aristocratique propre, et qui voulait imiter les aristocrates qui avaient dans leur grande maison, dans leur château, des tableaux pour orner leurs murs, et qui commandaient des tableaux qui étaient en quelque sorte des tableaux représentant de façon décalée, mais de façon symbolique, leur propre activité. Eux, ils faisaient du commerce, ils importaient du thé ou des épices ou de la soie d'Orient et faisaient fortune grâce à ça. Et ils mettaient sur les murs de leur maison des scènes pittoresques, populaires, de gens qui faisaient aussi du commerce, étaient en quelque sorte comme un miroir décalé, déplacé, une sorte de leur propre activité, de leur propre légitimité. Maintenant, ils étaient à leur tour devenus des spectateurs qui pouvaient entrer dans le monde de la contemplation artistique et peut-être de la contemplation esthétique, c'est-à-dire de l'appréciation de la qualité des œuvres d'art. C'était une conquête sociale que ce droit de regard sur le monde de la représentation de la société, que la société commerçante bourgeoise hollandaise faisait. Et à ce moment, vous auriez eu non pas une représentation du loisir d'une certaine classe sociale, mais une représentation du travail d'une certaine classe sociale. Mais de toute façon, ce qui est important, ce n'est pas la représentation elle-même, c'est ce que ça dit sur la société. Ici, l'impressionnisme nous dit qu'une certaine classe sociale a des loisirs qu'elle essaie de meubler, le plus intelligemment ou le plus diversement, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, pittoresquement, je veux dire, possible. Et l'autre peinture que j'évoque là, celle des commerçants hollandais, ce que révèle cette peinture des boutiquiers et des commerçants, représentés, je veux dire en images, c'est qu'une société acquiert le plaisir d'entrer dans un monde distancié par rapport à la vie quotidienne. Ils ne sont pas occupés uniquement à gagner de l'argent ou à gagner de quoi vivre agréablement, mais ils entrent dans le monde de la dégustation, de l'art, c'est-à-dire de la littérature, de la peinture, de la musique, tous ceux qui nous parlent indirectement du monde en le rendant différent, en en donnant une image qui est l'occasion de plaisirs particuliers qui ne sont pas ceux de la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle la dimension esthétique, c'est pas qui fait passer ailleurs dans un monde qui qualitativement n'est pas du même ordre que celui du monde quotidien. Alors évidemment, c'est ces gens qui sont si heureux de leur existence, qui sont satisfaits de la vie qu'ils mènent, souhaitent également être représentés, se voir dans l'exercice de leur plaisir. Donc vous voyez ici, scène de jardin, on fait de la balançoire, scène révélateur, les jeunes filles de bonne famille doivent toutes apprendre le piano, scène symbolique, c'est pas un bal populaire comme celui du Moulin de la Galette, c'est un bal plus élégant, c'est pas, où la bonne société se rencontre et où s'organisent les mariages peut-être. C'est ensuite la promenade à la campagne, qui est un plaisir à la fois de goûter la beauté du monde et également de se mettre en représentation dans son élégance et sa jeunesse, si on est jeune. Mais il n'y a jamais de gens qui se font peindre quand ils sont âgés, se promenant à la campagne. À ce moment, ils sont dans d'autres situations, n'est-ce pas ? Ici, un spectateur qui, vous le voyez bien, c'est Toulouse-Lautrec, et Toulouse-Lautrec que représente les gens justement, mais sans embellir, n'est-ce pas ? Au contraire, il a plutôt un regard lucide et cruel, n'est-ce pas ? Cet homme est l'image même de la vanité, de la suffisance. Il est heureux de son apparition et de son apparence, et toute son attitude le dit, n'est-ce pas ? Il est satisfait lui-même. Mais ce que nous montre avec Toulouse-Lautrec, c'est que, ce faisant, il a une certaine dimension de ridicule. Autrement dit, la représentation n'est pas toujours une représentation laudative. Elle peut être ironique et critique. Également, c'est un médecin qui était un grand fréquentateur des bastringues de Montmartre. Et ici, il paraît un peu décati, n'est-ce pas ? Il a l'air d'un viveur qui est au bout du rouleau. Hein ? La fatigue et l'usure des plaisirs constant. Et la promenade, au jardin du Luxembourg ou dans la ville, mais en même temps c'est un témoignage sur autre chose, puisque cette petite fille regarde, qui ne regarde pas comme sa mère le spectacle du... On est dans un jardin public, n'est-ce pas, de ce qui se passe autour. À travers les grilles, elle regarde le train qui passe. Le train, phénomène nouveau, n'est-ce pas, qui va transformer la vie économique, qui va changer la géographie de la France, puisque par exemple, jusqu'au 19e siècle, le grand port d'importation des produits, c'est Arles. Hein, et quand le train se développe, c'est Marseille. Et Marseille passe d'une ville de 60 000 habitants à une ville de 500 000 habitants en 20 ans. Donc les villes se développent et l'économie change grâce au progrès technique. Et ici, indirectement, toute cette vapeur hein, qui fait le fond du tableau, il suffit qu'elle retombe, c'est le monde nouveau, le monde en transformation qui apparaît. La petite fille est le témoin d'un avenir qui ne sera pas celui de sa mère. Donc cette peinture de divertissement et de représentation complaisante d'une certaine société peut également être une peinture qui donne à percevoir certaines transformations essentielles de la société qui sont en devenir, qui sont en gestation. Les artistes ont souvent ce pouvoir de perspicacité, n'est-ce pas, de donner à saisir plus que ce que semble représenter au premier abord leur tableau. Alors évidemment, dans ce monde brillant et heureux, n'apparaissent pas tous les gens qui sont à leur service, qui permettent qu'ils aient ce plaisir constant de jouir sans souci de l'existence. Mais il y a un peintre, Degas, exceptionnellement, qui a regardé derrière toutes ces belles tenues des messieurs avec leur faux col amidonné et des dames avec leur soierie. Et leurs jupons multiples, il y a les repasseuses, et repasser à cette époque 12 heures par jour, n'est-ce pas? C'est pas joyeux. Vous voyez, ici, Degas n'hésite pas à montrer l'exténuation, la fatigue, l'ennui de ces tâches répétitives, ou bien les paveurs de chemin, ça c'est Toulouse-Lautrec. Van Gogh peindra aussi les paveurs de route. Certains vont représenter tous ces lieux où on se réunit, ont des superbes parquets en bois, n'est-ce pas, et qui sont brillants et lisses comme un miroir. Mais ça suppose qu'il y a des gens qui, à genoux, pendant des centaines d'heures, les ont rabotés, n'est-ce pas. Et il y a un peintre qui s'appelle Caillebotte qui va peindre les raboteurs de parquet. Et ça, les raboteurs de parquet, c'est l'en dessous des choses, n'est-ce pas. C'est la réalité du travail et du labeur pénible qui permet le plaisir et la satisfaction des oisifs. Donc, il peut y avoir une dimension, n'est-ce pas, de révélation d'une épaisseur sociale au-delà de ce qui est représenté. Je termine sur ce tableau célèbre de Manet. C'est la buveuse d'absinthe. Ça s'appelle Au café. Mais on l'appelle en général la buveuse d'absinthe. L'absinthe est une qui a un nouveau permis, n'est-ce pas, de fabrication depuis 3 ans en France, mais qui a été interdit à cause des ravages extrêmes que sa consommation excessive provoquée après la guerre de 14-18, l'absinthe c'est l'ancêtre du pastis, si vous voulez, et devient une liqueur à la mode. Et on va dans les cafés consommer de l'absinthe, et vous voyez cette femme d'un milieu pas très riche, n'est-ce pas, est là, devant son verre, et elle est hébétée. C'est une image de l'alcoolisme, n'est-ce pas. Parallèlement, Zola écrira un livre qui s'appelle L'assommoir. L'assommoir, c'est le bistrot dans lequel on va consommer de l'alcool jusqu'à en être assommé et qui détruit lentement mais sûrement les individus. Ici, on a une image qui est à l'articulation de ces deux mondes, n'est-ce pas? Le monde ouvrier que peint Zola et le monde heureux que peignent les impressionnistes. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous faire passer à autre chose. Nous sommes au début du siècle et la société industrielle se développe de façon... La révolution industrielle a eu lieu au 19e siècle, mais au début du siècle, avant la guerre de 14, il y a une sorte de développement extrême du machinisme, des usines, de la conquête, de la maîtrise technique, si vous voulez, de ce qu'on va appeler la machine, tout simplement, c'est moi qui appelle la machine. Et c'est le moment où en même temps se produisent des miracles, des choses qui étaient considérées comme des impossibilités absolues se réalisent. Par exemple, voler, l'aviation est inventée, parler à distance, être en contact avec des gens qui sont à 1000 km, la radio est inventée. Et la littérature se fait le témoin admiratif de cette évolution, dans par exemple l'œuvre d'un poète qui s'appelle Apollinaire, au début du siècle. Et il y a donc une sorte d'enthousiasme qui occupe, qui s'installe dans une certaine partie des artistes, des écrivains, des peintres, etc., pour célébrer cette transformation radicale du monde qui fait que l'humanité entre dans l'ère de la machine, que l'on conçoit comme la possibilité de supprimer tout le labeur harassant et d'arriver peut-être à réaliser cet idéal que au XVIIIe siècle les philosophes avaient proposé, que les hommes soient égaux, non seulement en droit abstrait, mais également en capacité de bonheur, de jouissance de l'existence, peut-être grâce au développement de l'industrie, la production en masse des objets. C'est le mythe de la voiture, de la première voiture construite par M. Ford. C'est la voiture de tout le monde, n'est-ce pas? L'idée, c'est que tout le monde aura une voiture, tout le monde pourra circuler librement à travers l'espace, l'immense espace américain. Et on vit dans une sorte d'illusion heureuse et dans un enthousiasme permanent. Alors un peintre qui s'appelle Fernand Léger va tirer des conséquences esthétiques en termes de style croyance que l'ère de la machine, ce sera aussi l'ère du bonheur. Donc il va représenter la ville et la société avec un vocabulaire qui est emprunté à la machine. Qu'est-ce que c'est la machine? C'est des formes géométriques, des formes simples, des tubes, des rectangles, des cercles, des roues, hein, des bielles. Et c'est également, dans les usines, on utilise les couleurs pour distinguer, par exemple, les zones dangereuses peintes en rouge, les zones à surveiller, peintes en vert. Enfin, il y a un code des couleurs qui est variable selon les usines, mais ce sont toujours des couleurs simples et vives pour que ce soit repérable à l'œil. Et donc il va proposer une imagerie de la ville qui est représentée, on va dire, allusivement, symboliquement, pas du tout fidèlement comme le faisaient les impressionnistes qui reproduisaient la réalité. Ici c'est un art de suggestion, ou si vous voulez un art allégorique. Il montre par un autre moyen, non pas l'apparence des choses, mais le sens des choses. Donc cette ville qui se transforme sous le regard, la voici de façon diverse. Alors, je ne vais pas vous dire les noms des œuvres, ça n'a aucune importance. En général, c'est des noms tout à fait simplistes. L'escalier pour celle-ci, ou bien ceci. Le disque dans la ville. Alors vous reconnaissez un symbole de la modernité, à peu près, la tour Eiffel. Et puis le disque qui est significatif du train, puisque la signalisation des voies ferrées, ce sont des disques, qui est symbolique des machines. Les machines, ce sont toujours des roues, n'est-ce pas, des engrenages, des choses qui tournent. Donc le disque devient le symbole de la modernité, et la structure même de cette image, à peine allusive, n'est-ce pas, on veut bien reconnaître un paysage, on veut bien reconnaître une ville, mais il faut encore accepter, je dirais, un phénomène de connivence, hein, avec l'artiste. Et on va donc avoir cet éloge de la cité dans ce style qui est le style des temps modernes, celui de la machine. Toujours la ville. Et alors, autour de la... Tous ces peintres sont parisiens, toujours encore. Et Léger, s'il s'aventure dans les faubourgs de la ville, les faubourgs industriels, là où la ville se transforme réellement, va constater que y a des objets qui sont particulièrement emblématiques. Par exemple, les remorqueurs qui tirent les trains de péniche et qui amènent d'une part les marchandises brutes et d'autre part réexpédient les marchandises fabriquées. Et donc il va faire une série de tableaux sur le thème du remorqueur. Alors, dans le premier, vous pouvez distinguer le remorqueur, vous voyez sa cheminée, vous voyez une partie de sa coque. Il y a des éléments notables, mais ce que Léger veut faire passer, c'est l'idée qu'on entre dans un monde d'une complexité et d'une organisation sans rapport aucun avec celui auquel on était habitué préalablement. L'entrée dans les temps modernes, dans l'ère de la machine, c'est vraiment une transformation absolue du mode d'existence. Et c'est ce qu'il veut faire passer. Et voici un deuxième remorqueur, moins reconnaissable que le premier. Un troisième sur le pont du remorqueur. Et tant qu'à faire, Et ça, ça s'appelle paysage mécanique. Et tant qu'à faire, on va représenter également les hommes, l'homme, sous cet aspect transformé par la machine. L'homme devient en quelque sorte un être, excusez-le, c'est pas un jeu de mots, machinal, ou machinique peut-être il faut dire. Il vit en fonction de ce contexte nouveau qui transforme ses habitudes, ses habitudes de vie, ses habitudes de voir, ses habitudes de juger. Et donc l'idée qu'il y a un monde nouveau qui est en train de naître, et Léger essaie d'en présenter une image emblématique. Alors, voilà, tout ça, ce sont les personnages. Ça, c'est le marinier. Non, voilà le marinier. Alors, ça, c'était le mécanicien. Il est fait avec des éléments mécaniques. Le marinier, il reste un visage, il reste un tricot à rayures. Ça, c'est un couple. J'avais prévu de vous donner les noms exacts, ça n'a aucune importance. Ça, c'est le poète. Alors, comprenez, le poète, c'est celui qui fait de l'art, donc c'est aussi bien le peintre, n'est-ce pas? C'est le peintre témoin de son temps, et qui lui aussi fait partie de son temps, donc il entre dans cette imagerie particulière. Survient la guerre de 14, et Léger est fait soldat, donc il représente un soldat. Vous voyez que le soldat, tous ses membres sont faits de tuyaux. Le tuyau est un élément mécanique, n'est-ce pas, un élément usiné. Et évidemment, rien n'est plus mécanique et usiné qu'un soldat, évidemment. C'est entrer dans les armées en temps de guerre, c'est entrer, en effet, dans un univers qui est analogique à celui du monde de l'usine, n'est-ce pas, où on fait des objets en série, les soldats sont des objets en série. Donc il y a aussi un aspect... un peu, comment dire, ironiquement nostalgique dans cette peinture. Ça, c'est la partie de carte des soldats. Et voici quelques autres personnages. Et alors, il y a, dans la Léger, d'une certaine façon, invente une imagerie nouvelle qui se veut représentative de la transformation de la société à son époque. C'est une peinture optimiste. Hein. Léger croit que le bonheur est au bout de la route. Et pour cela, il se fera communiste, il restera communiste toute sa vie, croyant que il y a là une forme de conception de l'organisation du monde qui va de pair avec cette transformation mécanique du monde, et que l'avenir sera celui du bonheur. Donc c'est une peinture qui se veut optimiste, c'est pas du tout une peinture qui se veut négative, qui se veut parodique, n'est-ce pas, de la société, mais cette peinture parodique, elle existe aussi. Vous avez peut-être vu ce film de Charlie Chaplin qui s'appelle Les Temps modernes, où l'on voit un ouvrier qui travaille en série et qui finalement est avalé par la machine et qui passe à travers les roues, n'est-ce pas, les engrenages, ces roues et ces engrenages qui sont le leitmotiv de la peinture de Léger. Alors, donc Léger, tout en ayant cette conception novatrice du monde, est très conventionnel dans sa conception des genres. Il garde le paysage, mais le paysage c'est la ville, il garde l'image de l'homme, parce que ça lui paraît essentiel, c'est la transformation de l'homme qui est en jeu. Et d'autre part, il garde la catégorie des natures mortes, mais ces natures mortes, il les appelle éléments mécaniques. Bon, excusez-moi, ça c'est encore des portraits de personnages, c'est le couple. C'est le couple idéal du monde moderne, lisse, n'est-ce pas, sans aspérité, donc une image de l'harmonie d'une certaine façon. Et voici les natures mortes, éléments mécaniques. Ça s'appelle le disque rouge, la roue. Il devient dans toute la peinture pendant 50 ans de Delaunay, qui est un peintre du début du siècle, jusqu'à Kandinsky. Le cercle va devenir une image emblématique du monde moderne dans la peinture. Et voilà quelques éléments mécaniques qui vous donnent donc à voir cette transformation de la représentation du monde, qui n'est plus une représentation directe, une représentation indirecte, par symbole interposé. Quelle heure est-il ? Quoi ?
Il est 11h.
11h, ça va, du temps, ça va. S'il n'est que 11h, je vous montre ma troisième catégorie. Alors nous avons vu François, nous avons vu Fernand Léger traverser sans, sans, sans scier, n'est-ce pas, sans être transformé, la grande aventure tragique de la guerre de 1914-1918, mais qui, pour la plupart de ses contemporains, est une catastrophe absolue. Une catastrophe symbolique, je dis une catastrophe de civilisation. On ne peut plus aujourd'hui se rendre compte de ça. Pour résumer, il y a eu un enthousiasme extraordinaire. L'homme est capable de voler, l'homme est capable de parler à distance, l'homme est capable par l'industrie de transformer le monde et peut-être de construire un monde plus heureux. Et voici que l'aviation sert à bombarder, que les progrès de l'industrie servent à inventer des gaz asphyxiants, que tout le produit de l'intelligence humaine et du savoir, toute l'idéologie du progrès qui depuis le XVIIIe siècle est le moteur essentiel de la transformation de la société, aboutit à cette démonstration que l'intelligence de l'homme, les ressources de son esprit et tout ce qu'il invente peuvent servir uniquement à la destruction de toutes les valeurs morales, parce que c'est en 1914 qu'on invente aussi le bombardement des populations civiles, la grosse Bertha tire sur Paris, n'est-ce pas, aveuglément, qu'on invente la guerre totale. Donc c'est-à-dire, quand on lâche des gaz dans la nature, n'est-ce pas, les gaz ne font pas de discrimination entre les soldats et les civils. Donc, il y a, après la guerre de 14-18, il y a un grand courant de défaitisme qui court à travers la littérature et les arts. Pas de défaitisme, de scepticisme, de découragement, une crise de civilisation. On ne croit plus au progrès, on ne croit plus à que l'intelligence humaine est susceptible de transformer heureusement le monde et l'humanité. Ça se traduit dans la littérature américaine, il y a des écrivains comme Hemingway, comme Faulkner, on appelle ça la génération perdue, the beat generation, la génération battue, celle qui est écrasée, qui ne peut plus relever la tête tellement elle est désespérée. Et les œuvres qu'elle invente parlent de ce désespoir. Il en est de même dans la peinture. Mais plutôt que de vous montrer cette peinture qui directement montre un monde de catastrophe, je vais vous montrer une autre réaction, c'est celle de la révolte ou de la contestation radicale, c'est celle des surréalistes. Les surréalistes, il y a au milieu même de la guerre de 14-18, des gens se réunissent en Suisse et inventent un mouvement qu'ils appellent Dada. Pourquoi Dada? Parce que Dada ne veut rien dire. Dada, qu'est-ce que ça veut dire Dada? En aucune langue, ni en allemand, ni enfin les langues qui... des combattants, ce n'est pas les Allemands, ni en italien, ni en français, ça ne veut rien dire, sauf peut-être Dada, petit cheval, dans le langage enfantin français, mais ce n'est pas ça qu'ils importent. C'est une sorte de cri, une sorte de redoublement guttural qui réduit le langage à une sorte de ok, n'est-ce pas, c'est-à-dire à rien. Le langage qui est le moyen d'expression, le moyen d'explication, le moyen d'intelligence du monde est réduit à une caricature de lui-même, à un redoublement phonétique. Et ces gens-là vont faire des œuvres qui sont toutes des œuvres absurdes, illogiques, idiotes. Par exemple, ils annoncent à grande publicité une conférence sur un sujet très, très important, moral, métaphysique, politique, etc. Et donc la salle est remplie, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, de gens de bonne volonté. Et arrive sur scène quelqu'un qui dit agagaga, oé, gogogogi, etc. Et pendant une heure, il multiplie des borborygmes. Alors évidemment, ça crée un scandale. Les gens qui ont payé, et vous n'avez pas payé, mais eux ont payé, vont se protester. Et les dadaïstes sont heureux, ils ont obtenu l'effet voulu, n'est-ce pas? Ils ont créé une démonstration de l'absurdité de certains modes de relations sociales où on prétend échanger des idées. Et à quoi sert d'échanger des idées dans un monde qui ne se sert de l'intelligence que pour détruire le monde, hein? Donc la contestation est radicale à la source. Et ce mouvement Dada, après la guerre, va se développer dans un mouvement qui s'appelle le surréalisme. Surréalisme, au-delà de la réalité habituelle. Et ces gens vont préférer mettre en scène les produits de l'illogisme, tout ce qui est irrationnel, c'est-à-dire le rêve, le fantastique, l'étrange, le bizarre, l'incompréhensible, seront la matière même de leur peinture. Alors je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est un peintre allemand qui s'appelle Max Ernst. Le deuxième, c'est un peintre belge qui s'appelle Magritte. Et vous allez voir dans les deux cas une peinture qui va à contre-sens de là toute la tradition occidentale de la peinture qui consiste à représenter, fût-ce sous forme symbolique, comme chez Léger, des choses qui ont du sens. Le but de la peinture, le but de l'art, depuis les origines en Occident, on s'appuie sur un écrivain grec qui s'appelle Aristote, c'est de plaire et d'instruire. D'ailleurs, Aristote dit d'instruire et de plaire. Le but de l'art, c'est d'abord d'enseigner quelque chose. Et l'art des surréalistes a pour but de montrer qu'aucun enseignement n'a de raison d'être. On peut faire de l'art qui n'enseigne rien, si ce n'est peut-être le plaisir de jouir de ces spectacles d'étrangeté, irrationnel, d'entrer dans un autre monde qui est le surréel, qui ne nous parle plus du monde, qui ne prétend plus jouer le jeu de la crédibilité et de la confiance dans l'homme, de la crédibilité des images et de la confiance dans l'homme, mais qui se situe ailleurs. Donc c'est une attitude radicale de contestation. Alors voilà Max Ernst, je vous ai fait deux catégories. La première... trois catégories, puisque il faudrait mettre un peu au point, peut-être. Ça va pas. Ah. La première catégorie d'image, voilà. La première catégorie d'image, je ne vous en montrerai que deux. Ces images qui sont où tous les objets sont immédiatement reconnaissables, mais les relations entre objets